Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 37e. Bonjour Michel, pour la dernière de la saison, je le précise.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain Péréard.
Bonjour.
Bonjour Monsieur le député, puisque dorénavant c'est comme ça qu'on peut et on doit vous appeler. Alors on va revenir bien entendu sur à la fois votre investiture, votre victoire, et puis surtout sur le pain sur la planche que vous avez aujourd'hui en tant que député de la 2e circonscription de l'Aude pour La République En Marche. Le sommaire pour cette dernière de la saison, Michel. Alors, on va faire, comme on le fait de temps en temps quand même, et comme tu le fais souvent, essayer d'expliquer les choses, surtout sur le langage qui n'est pas évident. Alors, on parle beaucoup d'un gouvernement au cours de l'été par ordonnance. Bon, les gens vont peut-être croire que c'est le Toubib qui va leur écrire. Non, c'est pas ça du tout.
Non, c'est
pas ce genre d'ordonnance.
C'est
il va falloir un petit peu expliquer ce que c'est, en termes aussi simples que possible, quand même, que nos électeurs et auditeurs le comprennent bien.
Je m'y efforcerai, oui.
Voilà. Après coup, eh bien, nous parlerons de ce que tu appelles les tartarinades. En fait, ce sont les bisbilles continuelles entre ville et agglo, ville de Narbonne et agglo, avec de multiples aspects de ces bisbilles. Une qui est toute récente, c'est le conseil d'agglo du jeudi soir, qui a été annulé, etc., etc. Dans une deuxième partie, eh bien, un petit mot sur une question alors qu'on pose. Où est l'autorité de l'État à la lumière d'un certain nombre d'événements de l'actualité, notamment narbonnaise, mais pas seulement. Et puis, pour terminer, dans une troisième partie, d'interviewer notre député, eh bien, toujours la suite des élections. Monsieur Viola, battu, mais qui est toujours en charge du conseil départemental. Madame Fabre, battue, alors sur la députation, mais qui apparemment se prépare pour de futures fonctions électorales. C'est bien comme ça que tu le vois, Michel.
Oui, que je l'ai écrit, effectivement, dans mon blog.
Voilà. Alors, une ordonnance, lorsqu'un gouvernement... Alors, le 49-3, on en a plus suffisamment parlé pour que les gens aient une petite idée, mais une ordonnance, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors on en parle beaucoup, et d'ailleurs, entre parenthèses, nos auditeurs savent, ou en tout cas je le rappelle, que cette ordonnance qui va être, sans aucun doute aucun, prise par le gouvernement, était dans le programme du président de la République.
Oui, ça, bon, c'est pas une surprise.
Donc il n'y a pas de surprise. Donc les électeurs ont choisi en toute conscience de cause. Donc le Code du travail sera modifié par la voie de l'ordonnance. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ? Ce sont des mesures qui sont prises par le gouvernement et dans un domaine qui relève exclusivement de la loi. Donc c'est une mesure en fait qui est dérogatoire, je veux dire, à la pratique législative courante pour modifier des textes de loi en fait. Mais qui remonte loin dans l'histoire, qui remonte quasiment d'ailleurs au pouvoir royal. Parce qu'à l'époque, le roi, pour des mesures d'ordre général, édictait des ordonnances, et puis pour des mesures très particulières, des édits. Bon, n'insistons pas. Puis après, les décrets-lois de la 3e et la 4e République étaient exactement en fait ce que sont aujourd'hui les ordonnances qui sont prévues par l'article 38 de la Constitution. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est pas le gouvernement qui va décider demain, dans ce petit coin, des mesures qui vont être prises comme ça, Il y a quand même des verrous, si je puis dire, législatifs. C'est-à-dire que pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre cette ordonnance dont il va rédiger le texte, il faut que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, votent une loi dite d'habilitation, c'est-à-dire une loi qui dit en gros, on a reçu votre texte, on est d'accord sur à la fois les grands axes de ce texte et sur les délais que vous, à l'intérieur desquels, vous allez mettre en œuvre cette ordonnance. D'accord ? Donc, M. Perea va être convoqué, comme ses collègues, député sénateur, très bientôt, pour voter, très, très rapidement d'ailleurs, si j'ai bien compris le calendrier qui nous est proposé, cette loi d'habilitation. D'accord ? Donc le gouvernement va travailler. Et puis après, il faudra ensuite revenir au Parlement, c'est-à-dire devant le deuxième cliquet, devant le député et le sénateur, pour que ces deux-là votent le projet de loi de ratification. C'est-à-dire, moi, nous, députés et sénateurs, donc nous ratifions cette ordonnance pour laquelle nous avons donné un pouvoir d'habilitation. Hein, et voilà, donc maintenant, mettez-vous au travail, hein, exécutez-la. Alors, pour qu'elle soit exécutée, d'ailleurs, bah, après cette loi de ratification qui sera votée sans débat, hein, donc là, les sénateurs et députés ne pourront pas faire de.
C'est ça la
débat.
Différence avec l'élaboration d'une loi classique.
Pas de débat et pas d'amendement, évidemment. Mmh, quoi, ça va de soi.
Oui,
quoi, hein.
Voilà, le donc, texte définitif.
Donc, hein. Alors, après ces deux projets de loi d'habilitation et de ratification, dont le gouvernement a le pouvoir d'exécuter ces mesures. Sauf que il faut que, dernière procédure, que le président auto-signe effectivement ces ordonnances pour qu'elles soient effectivement promulguées. Voilà quelle est la procédure. Elle est relativement simple dans sa méthode. Hein, simple. Pourquoi? Parce que, du point de vue de l'actuel président et de sa majorité, il convient d'aller très très vite.
Voilà. En général, on le fait parce qu'on veut aller vite.
On va aller vite. Alors il y a aussi quand même des... Pardon de faire une grosse parenthèse. Hein. En 2005, par exemple, hein, il y a eu 84 ordonnances. Ce n'est pas une mesure qui est comme ça, qui est pondue une fois tous les 10 ans. Non, non. C'est une pratique courante. Et notamment, c'est pour ça que je vois cette parenthèse, ce que peu de gens savent, hein, pour transcrire dans le droit interne, dans le droit français, des directives communautaires. Alors pourquoi? Parce que les directives sont pondues, si je puis dire, en fait, à Bruxelles, hein, et puis elles sont transposées.
Il faut les appliquer dans le droit
du pays. Elles
doivent
être transposées, en fait, ce terme, hein, donc dans des termes équivalents dans le droit, en fait, interne. Et bon, on peut pas imaginer qu'on a ce contexte-là. Effectivement, on donne aux députés, aux sénateurs, le pouvoir d'amendement des directives qui ont déjà été négociées là-haut et qui doivent être appliquées dans les termes où elles ont été produites effectivement
voilà.
À Bruxelles.
Voilà. Merci donc pour ces précisions et on comprend surtout que le souci du gouvernement, là, c'est d'aller vite. C'est
vite.
Pour ça qu'on
ne
passe
sûr.
Pas par les traditionnels.
Il y a une raison. C'est que ces mesures de modification du contrat de travail prévues dans cette ordonnance, du point de vue de M. Macron et de sa majorité, devraient permettre, pour compte tenu, je ne vais pas lister les mesures en question, hein, de libérer les énergies, en fait, de rétablir la confiance dans les entreprises et donc de permettre la création d'emplois. En fait, on sait très bien qu'entre le moment où on modifie un texte, notamment le code du travail, et le moment où ces textes produisent des effets pratiques, il faut pratiquement 2-3 ans, il convient effectivement d'aller très très vite.
Donc il ne faut pas perdre de temps. Alors revenons maintenant sur le local, avec ce que tu appelles les tartarinades que tu as évoquées dans un de tes derniers billets, à savoir le feuilleton des bisbilles sempiternelles entre le Grand Narbonne, l'agglomération, et la ville de Narbonne.
Oui. On change de niveau, là. Hein. On passe, de,
on oui, passe bon,
des
on
ordonnances
revient
et
chez
des contrats
nous,
de travail.
Et puis c'est vrai que le niveau est parfois indigent.
Alors, ça, c'est ce que j'appelle, moi, des pantalonnades. Alors, c'est plus que tartarinades, ce sont des pantalonnades. C'est le niveau de la farce. Alors, première séquence... Hein. Je lis sur les réseaux sociaux, en fait, hein, il n'y a pas très longtemps, un post de M. Parra,
adjoint
au maire, en charge notamment des commerçants, du commerce, hein, qui se prend appui sur une communication officielle de Nouveau Narbonne, et qui s'indigne de voir, photo à l'appui, hein, un restaurateur bien connu du centre-ville de Narbonne, armé d'un karcher, hein, et nettoyant la plaque amovible des containers enterrés, hein, avec un air très satisfait, et dans une pose qui n'était pas du tout celle d'un travailleur habituel en charge de ce genre de questions. Il manquait d'ailleurs, en parenthèse, le costume
fluo. Le fin mot de l'histoire,
hein,
c'est...
Et alors, le problème, c'est que il s'est complètement planté, notre adjoint au maire en charge du commerce, parce que la plaque amovible qui est ouverte au public, hein, qui est, bon, moi, comme toi, tu peux marcher cette plaque amovible des containers enterrés, hein, et c'est la compétence, effectivement, de la commune. Le Grand Narbonne, lui, fait...
n'a pas à la nettoyer.
Non. Et là, par contre, lui a nettoyé les cuves, en fait, internes. Et puis, bon, ce qui est intérieur. Alors, en plus, imagine, en fait, c'est du bon sens, quoi. Hein. Alors, imagine, en plus, hein, que les balayeurs, en fait, les agents de la propreté de l'homme, qui font un boulot extraordinaire, avec leur balai, leur aspirateur, paf, s'arrêtent, au bord des plaques amovibles pour ne pas continuer, effectivement.
Pour faire bref, on revient à la volonté de polémiquer. Et là, c'est publié, donc, par l'adjoint au maire, apparemment. C'est publié sur un réseau social. Donc, il y a une volonté de faire connaître ces bisbilles.
Donc, alors, un, on ne connaît pas les compétences que l'on gère. Deux, en fait, on interdit aux agents municipaux d'aller, de prolonger effectivement leur travail. Et trois, finalement, on se couvre de ridicule parce que le bon sens, tout simplement, indépendamment de la connaissance juridique que je vais rapidement exposer, devrait amener tout le monde à comprendre qu'effectivement, que ça relève de la compétence communale.
Oui, mais quand on a envie. Et alors, dernier avatar, ce jeudi soir, un conseil d'agglomération.
On continue dans le ridicule.
Qui est annulé.
On continue dans le ridicule. Alors là,
dès l'ouverture, il y a une
vedette américaine, parce que américaine, l'inévitable Chivardi. Tout le monde se rappelle qu'il avait.
Là encore, c'est un feuilleton interminable.
Qui s'était illustré à travers une marionnette des guignols, qui continue à le faire, le guignol. Un clown. il arrive. Quand même. Il y a 2000 et quelques pages de dossiers.
Ce qui est vrai, il a des arguments qui parfois pourraient être entendus si on voulait. Il y a la manière de faire.
Tout le monde
aussi
sait qu'il est contre les intercommunalités, qu'il est contre l'Europe, qu'il est contre tout.
Mais ensuite, il y a d'autres qui prennent
le
relais.
Évidemment, il y a Nouveau Narbonne qui prend le relais avec les interventions de Mme Garbet et de M. César. Et qui proteste, déni de démocratie, en fait, que sais-je encore. Bref,
résultat, au bout de quelques minutes, ils s'en vont.
Ils s'en vont, plus de quorum.
Il n'y a plus de quorum. Conseil.
Et Jacques Mercure est obligé d'ajourner.
Le conseil d'agglomération est annulé.
Alors, ce qui m'a quand même le plus surpris, c'est le propos de Mme Garbet, et surtout son attitude, parce qu'elle est sortie comme les autres, Mme Garbet, de Nouveau-Narbonne. C'est que quand même, je le rappelle, elle a demandé l'investiture de La République En Marche, qui est dans un mouvement, qui est dans une logique en fait, de rassemblement des forces progressistes de droite et de gauche pour travailler en commun et faire avancer le dossier. Et là, elle se comporte à l'inverse de la philosophie même de ce mouvement. J'espère qu'elle m'entend au micro et qu'à l'occasion, elle m'explique la cohérence effectivement intellectuelle et politique de son action depuis, effectivement, sa dernière sortie, si je puis dire, intellectuelle et physique du Grand Narbonne.
Voilà. J'espère qu'elle répondra à ton invitation, Michel. On marque une première pause.